si je viens d'exprimer au Seigneur cette demande d'aide, c'est que nous en avons vraiment grand besoin. Nous pénétrons dans un champ de mine. La question du féminisme et du rapport à la théologie évangélique en particulier, est une des questions les plus brûlantes de l'actualité. Je crois que le point en cause est peut-être le point le plus chaud du front spirituel. Des guerres des lieux célestes qui se livrent aujourd'hui. Je me suis laissé dire qu'il n'y a peut-être pas de secteur de la recherche aujourd'hui où la densité de sophismes au centimètre carré de pages imprimées soit plus élevée. Et il y a de bonnes raisons, de bonnes, entre guillemets, pour que la situation soit telle que je la décris maintenant. Lorsque l'on s'interroge sur les questions qui vont nous occuper, les pressions externes sont extrêmement fortes. Il y a la pression de la tradition qui nous a modelé, qui a conditionné nos réflexes, et il y a les pressions contraires des modes intellectuels qui prédominent au moins dans notre culture occidentale. Plus que sur d'autres sujets, nous serons tentés par le conformisme, soit le conformisme au modèle de pensée ancien dont nous ne réussirons pas à nous dégager, soit le conformisme aux tendances contemporaines, au train desquels nous essaierons d'accrocher notre wagon et à nous laisser influencer par l'esprit du siècle passé ou l'esprit du siècle présent, nous risquerons de ne plus suivre la voie que la Bible elle-même nous trace. Deuxième facteur de désorientation et de confusion, il n'y a pas seulement les influences idéologiques, comme on peut les appeler, qui risquent de nous faire déraper. Il y a des intérêts très concrets et très très lourds. C'est vraiment de notre existence quotidienne, de notre façon de jouir de la vie ou d'en souffrir, qu'il est question aux uns et aux autres. Il y a les pouvoirs que nous exerçons, il y a les libertés dont nous usons, il y a les reconnaissances de l'environnement social que nous attendons. Tout cela est en jeu. Et du coup, il nous est extrêmement difficile d'être impartiaux. Nos intérêts vraiment élémentaires sont dans la balance. Et puis, troisième secteur, bien sûr tous ces secteurs sont liés, il y a au moins des souterrains qui les font communiquer, mais troisième secteur, l'aspect plus psychologique du débat nous importe aussi beaucoup. Notre sentiment d'identité aux uns et aux autres est très, très profondément lié à l'image du sexe auquel nous appartenons. Et corrélativement du sexe auquel nous n'appartenons pas. Les images, les modèles qui sont en nous et, je dirais, dessinés dans notre inconscient même sur l'identité masculine et féminine importent beaucoup pour le sentiment de notre identité individuelle. La manière dont nous comprenons, dont nous nous voyons, nous appréhendons nous-mêmes. Et toute remise en cause est extrêmement pénible. Nous pouvons angoisser profondément du seul fait que notre idée, et c'est même pas une idée thématisée, mais l'idée profonde, obscure, de la masculinité ou de la féminité, est remise en cause. D'où des résistances, d'où une difficulté à traiter le sujet qui est grande. Et c'est pour cela que des personnes peuvent lire la même Bible et aboutir à des conclusions diamétralement opposées. Non pas, je crois, que la Bible soit particulièrement obscure ou embrouillée sur la question, bien qu'elle en traite peu ex professo, comme un sujet qu'elle développerait systématiquement pour lui-même. Mais je crois parce que les facteurs qui sont en nous lorsque nous nous approchons de la Bible sont si puissants, et notre désir de trouver ce qu'elle nous dit et non pas l'écho de ce que nous voudrions trouver, notre désir est si faible face aux autres facteurs. En outre, je pense qu'on peut signaler que la sensibilité est à vif, pour les mêmes raisons que j'ai dites, et qu'indépendamment de la question des positions de fond adoptées, l'expression même peut jouer un rôle important. Et un mot de travers, un mot de trop ou un mot pas assez peut être très blessant lorsqu'on parle d'un tel sujet. Je veux vraiment vous demander de me pardonner à l'avance, puisque c'est moi qui aurai tout spécialement la parole, bien que vous l'ayez aussi, dans nos 5 séances de cours. Je vous demande d'avance pardon si, involontairement, en tout cas de la volonté consciente, je dis une chose comme je ne devrais pas la dire, que je fais mal à qui que ce soit parmi vous. En nous comptant sur la grâce de Dieu, il ne faut pas simplement se laisser paralyser par la connaissance des difficultés. Dieu nous a parlé sur ce sujet aussi, même si ce n'est pas toujours aussi clairement et avec autant de détails que nous l'aurions voulu, et il nous faut nous efforcer d'entendre et de comprendre. Vous avez vu que j'ai prévu une distribution selon le nombre de nos séances ensemble pour l'ensemble du sujet. Le plan, donc sans être très affiné, est quand même déjà un plan assez détaillé qui vous est proposé dans les pages 34 et suivantes du fascicule. J'ai pensé commencer ce matin par un coup d'œil d'ensemble sur la révolution féministe, comme on peut l'appeler, brièvement sur ses aspects concrets, sociologiquement décrits, et un peu plus longuement quant au retentissement idéologique, quant aux œuvres qui vont être les partenaires des théologiens et théologiennes du féminisme, que nous devons considérer surtout dans la deuxième séance, en début d'après-midi, à 14h30. Quant à mes sources, vous en avez une petite idée par la bibliographie que j'ai ajoutée, je ne vais pas tenter de la commenter, je crois que ce ne serait pas très très fructueux. À l'occasion, je dirai quelques mots de certains des auteurs sur lesquels je m'appuierai. Je n'ai pas, dans cette bibliographie, mis évidemment tous les titres que j'aurais pu mettre. Il y en a que j'ai lus et que je n'ai pas indiqués. Et il y a dans cette liste des ouvrages que je n'ai pas lus, en tout cas pas en entier, malheureusement. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Je vous l'avoue simplement. Ceux qui parmi vous ont une connaissance plus détaillée, au moins de certains aspects du sujet que moi, n'hésiteront pas à intervenir et à nous enrichir tous par le rapport. Commençons donc, et vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Commençons donc par un coup d'œil sur les changements qui ont affecté la condition des femmes depuis, disons, quelques générations. Il s'agit seulement là des temps modernes. Je reviendrai un peu en arrière dans mon deuxième paragraphe, mais pour le moment, donc, prenons la mesure, très très brièvement, du bouleversement par rapport aux choses qui paraissaient immuables pendant des siècles et qui ont prévalu jusqu'au XIXe siècle. Alors que les femmes n'avaient, pour commencer par là, aucun droit politique. Qu'elles étaient, du point de vue du droit, traitées comme des enfants, en puissance de mari, comme on disait. Alors qu'elles étaient concrètement reléguées dans un certain nombre de tâches assez limitées, la plupart du temps très proches du foyer domestique, en quelques dizaines d'années, en un siècle, grosso modo, la situation s'est considérablement modifiée. Aujourd'hui, dans les pays de l'Occident démocratique, dans notre situation culturelle, les droits politiques et juridiques sont les mêmes que ceux des hommes. Les derniers résidus de différence à cet égard ont été éliminés, je crois, pour la France dans les années 70. La France a été plutôt légèrement en retard sur les pays anglo-saxons et les pays scandinaves qui ont été en tête de ce mouvement. Juste quelques dates que j'ai encore entendues rappeler hier à la radio. J'entendais une interview de Florence Moreno qui vient de publier un 20e siècle des femmes. C'est en 1907 que la femme qui avait un travail salarié a eu le droit de recevoir son salaire en France. Avant, le salaire était remis à son mari. C'est en 1938 que son émancipation légale a eu lieu. C'est en 1945, vous le savez, qu'elle a eu le droit de vote, que le général de Gaulle a introduit en France ce qui était déjà acquis dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, c'est en 1920 que le droit de vote a été donné aux femmes, a été reconnu aux femmes également. Mais vous discernez donc le bouleversement du point de vue politique et légal qui est intervenu. Du point de vue de la vie économique et des rôles sociaux professionnels, là aussi, changement considérable, ouverture de l'université. Début du siècle, il y a un siècle, les filles ne pouvaient pas préparer le baccalauréat, par exemple. Ma grand-mère en avait encore une amertume considérable, je me le rappelle. Bon, je cite ma grand-mère, donc elle est dans la bibliographie. Hein. Madame A. Locher-Sayens, Madeleine Sayens de naissance, qui a été la première femme pasteur de France. C'est à ce titre d'ailleurs qu'elle figure dans le petit que sais-je sur l'histoire du protestantisme. Les circonstances y ont conduit. Elle était une féministe très, très vigoureuse en son temps. Et en partie, son combat féministe s'alimentait à l'amertume de son enfance et de son adolescence, alors qu'elle était douée, qu'elle aurait pu faire des études universitaires brillantes à coup sûr. Elle en a été barrée par les impossibilités du temps. Je me rappelle encore la manière dont elle le disait. Donc, ouverture des carrières universitaires, ouverture d'un nombre important de professions, l'enseignement, et je crois que vous êtes assez nombreuses pour en donner l'illustration dans notre groupe, l'enseignement s'est féminisé de manière considérable et à tous les degrés, dans tous les cycles. La carrière médicale également, le nombre de médecins femmes aujourd'hui est aussi élevé. Je n'ai pas de chiffres, mais bon, les avocats et les magistrats, de même, les avocates sont très très nombreuses, les juges. Donc, changement à coup sûr, la condition des femmes a été modifiée. Si on parle de condition des femmes, je pense qu'on peut dire aussi que la condition de la femme au foyer a été modifiée. Le nombre d'heures consacrées aux tâches domestiques s'est trouvé considérablement réduit pour la très grande majorité des femmes. Je m'exprime avec prudence, j'essaye, en tout cas, parce que bien sûr, il y avait les bourgeoises qui surveillaient le travail de leurs domestiques, donc qui n'avaient pas un si grand nombre d'heures de travail à effectuer elles-mêmes autrefois, un nombre même moindre sans doute que celle de la plupart des femmes aujourd'hui dans leur foyer. Mais elles constituaient une fraction très, très minime de la population du point de vue statistique. Et donc, par rapport au nombre d'heures pensées, mais même dans mon propre foyer, je vois la différence qu'on fait les couches de cellulose. Quand il y avait toutes les couches à laver, à faire sécher, à repasser pour les petits-enfants, rien que le temps que ça prenait. Les lessives, les raccommodages, la condition concrète a été modifiée de cette façon, là aussi, façon extraordinaire. Ce qui, du coup, d'ailleurs, conduit à une quasi-généralisation du salariat, du travail à l'extérieur, qui n'était simplement pas possible pour une mère de famille autrefois, à cause du nombre d'heures que prenaient les tâches au foyer.
Il y avait, excusez-moi, aussi quelques petits intérêts économiques en jeu.
C'est ça. Oui, oui. Ah, mais je ne suis pas. Là, j'essaye de décrire une situation pour donner le sens du changement. Mais quand Moulinex libère la femme, je suis bien d'accord qu'on peut mettre des guillemets à libère. Vous voyez, je ne dis pas que les intérêts économiques n'aient pas joué leur rôle aussi. D'ailleurs, en deuxième lieu, je veux passer aux facteurs. Hein. Aux facteurs qui ont pu jouer. Mais je mentionne cette différence, et puis alors la différence dont nous allons encore devoir reparler, qui est considérée, je crois, par beaucoup d'auteurs, en particulier féministes, comme la différence décisive, celle qui concerne la maîtrise de la fécondité. La contraception est vraiment la révolution pour la condition concrète des femmes. Alors, les facteurs, il me semble que je discerne trois facteurs principaux, et là toujours liés ensemble, on distingue à des fins pédagogiques, et pas seulement pédagogiques d'ailleurs, quand on veut penser quelque chose, il faut analyser, il faut décomposer, mais en n'oubliant jamais que dans le concret, ces éléments que l'on dissocie analytiquement sont entrelacés, fonctionnent ensemble. Alors facteurs donc que je distinguerai, celui que je viens d'évoquer, le facteur technologique. Même en ce qui concerne la pilule, il s'agit d'une technologie de la maîtrise de la fécondité. Et en ce qui concerne les appareils ménagers, en ce qui concerne l'électricité, sans aucun doute, cela a pesé d'un très très grand poids. Deuxième grand facteur, les changements sociaux induits par l'industrialisation. Alors, on peut y voir aussi un effet des révolutions techniques, mais sans doute, est-ce quand même une autre catégorie qu'on met en œuvre, l'urbanisation, le repliement qui s'en est suivi par rapport aux familles quand même étendues de la société rurale, le repliement sur la famille nucléaire, les deux conjoints avec leurs enfants dans un petit appartement, dans un immeuble en ville, au lieu de plusieurs générations coexistant dans une grande ferme, etc. Ces changements-là ont à coup sûr conduit à une bonne part des bouleversements que nous constatons. Les modifications donc technico-économiques conduisant aussi à une sorte de dépréciation de la force physique, à des ouvertures professionnelles pour la femme, alors que dans la période antérieure, un simple différentiel musculaire rendait la chose plus difficile. Les professions où la force musculaire ne compte plus beaucoup, se sont multipliées, sont devenues vraiment très très importantes, la machine suppléant. Donc, cette révolution industrielle, avec ses conséquences sociales, a certainement été un facteur de très grand poids dans l'évolution. Et puis troisièmement, le facteur proprement idéologique ou idéologico-culturel, les changements qui ont affecté la condition féminine sont liés au grand mouvement d'émancipation démocratique. Il y a une continuité assez évidente par rapport à l'idéologie du siècle des Lumières. Égalité, indépendance de l'individu, c'est ce qu'on résume très souvent sous le nom de modernité. Organisation rationnelle de la vie sociale, où l'individu est considéré comme autonome, avec pour but son propre accomplissement, cette modernité s'exaspérant et à certains égards s'inversant en post-modernité depuis, en gros, une trentaine d'années. Je pense que l'on peut considérer que ce sont les années 60 qui marquent le virage de la modernité à la post-modernité. Sur la post-modernité, ceux qui ont pu lire de temps en temps quelque chose que j'écris savent que je dépends beaucoup, parce que je considère que c'est le prophète de la post-modernité, de Gilles Lipovetsky. Lipovetsky, de l'Université de Grenoble, me semble rendre compte de manière très brillante du virage post-moderne. L'expression n'est pas de lui, hein. À l'origine elle est de Jean-François Lyotard, semble-t-il, qui enseigne en Sorbonne. Mais Gilles Lipovetsky, dans l'ère du vide, puis l'empire de l'éphémère, et finalement le crépuscule du devoir, c'est sa trilogie, me semble très bien dessiner le visage nouveau de notre situation culturelle. Et je me réfère volontiers à lui, parce que je l'appelle le prophète de cette postmodernité, parce que tout en présentant ce qui, pour moi, est un visage effrayant, et où l'opposition avec des traits que la Bible me fait chérir est évidente, il est pour. Donc, son tableau me semble exact, mais on ne peut pas l'accuser de noircir la situation, parce que finalement, il plaide que c'est pas si mal, que les alarmistes ont tort, que finalement il est pour. Alors qu'il va jusqu'à dire que l'individu devient un zombie. Ce sont des expressions à lui. L'inconsistance de l'individu qui éclate dans cet hyper-individualisme arrivé en son stade de postmodernité, bien qu'il dise ça, il est pour. Alors, je dis, c'est vraiment l'homme à citer, quoi, lorsque l'on essaye de faire un diagnostic de cette situation postmoderne. Donc, trois grands types de facteurs, mais qui jouent bien sûr ensemble. Il ne faudrait pas croire que ces changements de la condition des femmes aient abouti cependant à une complète égalité, alors que l'égalité est visée par cette idéologie des Lumières. Et j'ai noté donc dans mon petit plan là les insuffisances pour signaler, et c'est un souci particulièrement vif chez tous ceux qui se disent féministes, toutes celles qui se disent féministes, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Les femmes ont conquis sans aucun doute l'égalité formelle, juridiquement et politiquement, mais de fait, elles restent encore traitées comme inférieures. Il n'y a qu'à voir le nombre de députés femmes au Parlement, en particulier en France, qui bat, je crois, les records à cet égard. Il n'y a qu'à voir le différentiel moyen des salaires. Il n'y a qu'à voir le poids des charges au foyer. Alors que les femmes travaillent au dehors, elles continuent d'avoir beaucoup plus d'heures par semaine de travail domestique que leur conjoint ou compagnon. Voilà des choses que les féministes mettent volontiers en avant, et on ne peut pas nier qu'elles correspondent à des réalités. C'est peut-être très sélectif, mais il reste que c'est lourd pour indiquer que le changement de la condition des femmes est un changement qui a été prodigieux par rapport aux millénaires qui ont précédé, mais qui n'a pas abouti à une complète égalité dans le concret. Et cela est très bien ramassé, résumé, dans le livre d'Hélène Storke, auquel je vais souvent faire référence. C'est un livre que je vous recommande particulièrement, qui se trouve page 38, presque au bas de la page, surtout... Hélène Storke, What's Right with Feminism? Un ouvrage qui est à la bibliothèque, qui a été mis à part pendant la durée de l'université d'été, vous pouvez le consulter. Hélène Storke est une personnalité très remarquable et un peu phare, pourrait-on dire, du mouvement évangélique anglais d'aujourd'hui. C'est elle que John Stott a choisi, pourrait-on dire, en tout cas. C'est entre les deux que ça s'est passé, lorsqu'il a confié la direction de l'Institut pour le christianisme contemporain qu'il a créé à Londres. Avec John Stott, lui vous le connaissez, je pense, c'est peut-être le plus célèbre des évangéliques au monde après Billy Graham. Eh bien, John Stott, lui, a fondé, il y a maintenant une quinzaine d'années, un institut pour l'étude du christianisme, mais ouvert sur les problèmes contemporains, pas un institut biblique, un institut théologique ordinaire, préparant au ministère, mais avec le souci principal d'un dialogue sur les grands problèmes de culture et de société où la voix évangélique se ferait entendre. Et il a confié donc cet Institute for Contemporary Christianity à Ellen Stokey, qui est très brillante, qui parle assez souvent à la BBC. Il m'est arrivé, prenant la BBC le matin, de tomber sur la minute religieuse et c'était Ellen Stokey que j'ai rencontré une fois dans un congrès à Stuttgart une fois. Donc je la connais juste un petit peu. Je ne serais pas surpris, ça peut-être je ne devrais pas le dire pour faire enregistrer, mais enfin, je suis imprudent. Je ne serais pas surpris qu'elle ait joué un rôle décisif dans le choix de l'archevêque de Canterbury actuel. Parce que cet archevêque a été élu à surprise générale, parce que se sont alliés pour le choisir les libéraux non romanisants dans l'église anglicane et les évangéliques disons larges et féministes, parce qu'il est fortement féministe. Or Ellen Stokey, je sais, est pratiquement chef de file de cette tendance évangélique féministe dans l'assemblée plénière de l'église anglicane, une laïque anglicane de grande influence. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait joué un rôle important pour le choix de cet archevêque. Mais ça, c'est une pure hypothèse de ma part. Je n'ai pas de renseignements. Donc, Ellen Stokey, dans ce qui, je pense, doit être son premier chapitre, marque très bien quelles insuffisances subsistent, du point de vue des féministes en tout cas, mais je pense des femmes en général, et d'un regard assez neutre quant au changement de la condition féminine. À vrai dire, certains peuvent plaider qu'il y a même eu aggravation de la condition, du poids de la condition féminine à certains égards, avec la généralisation du travail extérieur, professionnel extérieur, et pourtant l'inertie demeure quant au partage des tâches domestiques, par exemple. On peut dire que les femmes ont subi là une pression accrue, et celles qui ont eu le désir quand même légitime d'avoir des enfants, face aux pressions de la concurrence professionnelle, elles aussi ont pu sentir un stress bien plus pénible qu'à d'autres époques. Donc, là aussi, peut-être y a-t-il dans cette évolution certains aspects carrément négatifs. Ces faits étant à peu près survolés, comme je viens de faire, alors, il s'agit pour nous de regarder maintenant quelles ont été les grandes publications orales ou écrites qui ont accompagné ce mouvement, qui ont demandé qu'il aille plus loin dans le sens de l'égalité, dans le sens de la promotion des droits des femmes. Le combat ne date pas d'hier. Et sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, nous sommes souvent victimes d'une illusion d'optique et nous croyons que des choses qui sont dans l'actualité sont nées de la dernière pluie. En fait, on découvre que déjà il y a plus d'un siècle, pratiquement tout avait été dit, que les arguments étaient là. C'est vrai pour les grands courants théologiques à part de cette question du féminisme. Il y a une telle prime à ce qui est nouveau qu'on tente à effacer de la mémoire les formes anciennes pratiquement équivalentes. C'est vrai pour le féminisme également. D'abord, il faut souligner que la condition des femmes n'a pas été la même, il n'y a pas eu uniformité quant aux droits qu'elles pouvaient exercer, quant aux marges d'action, d'initiative qu'elles pouvaient prendre. il y a eu quand même une assez grande diversité historique, selon les lieux, selon les temps. Alors je ne crois pas, pour ma part, mais là aussi, là je m'avance, je me risque, que l'idée d'un matriarcat primitif, dans la vue de certains féministes, correspond un peu à un âge d'or, à un Éden, dont une chute sexiste aurait privé ensuite l'humanité. Je ne pense pas que cette idée d'un matriarcat primitif soit suffisamment fondée sur des faits repérables. Je ne pense pas que la thèse soit d'ailleurs universellement revendiquée par les auteurs de tendances féministes. On a confondu, pour s'autoriser de cette idée de matriarcat, matriarcat et matrilinéarité. Le fait que dans certaines sociétés, ça c'est effectivement assez commun, la filiation soit comptée à partir de la mère, parce que c'est la filiation certaine, et quand on ne sait pas très bien quels sont les mécanismes de la reproduction, ce qui est sûr, ce qui est clair, ce qui apparaît, c'est que tel enfant est fils de telle mère. La matrilinéarité, donc, qui elle est bien attestée, n'a pas signifié pour autant matriarcat, c'est-à-dire pouvoir des femmes, détention du pouvoir politique, du pouvoir social, principalement par les femmes. Ça ne semble pas être attesté nulle part. Mais, même s'il n'y a pas eu, à proprement parler, de société matriarcale, ou alors vraiment très exceptionnelle, cachée, il y a eu des différences sensibles. Et là aussi, je m'avance, je me risque, je crois que le discours de certains féministes est exagéré, qui suggère qu'il n'y a eu qu'oppression, qu'il n'y a eu que piétinement des droits de la femme, qu'elle n'a été jamais que dépouillée de tout droit et de toute liberté. Donc en fait, ça a varié. Il y a eu des périodes plus sombres, des périodes plus claires. Mais il y a évidemment des disputes sur certaines époques, en particulier celles qui correspondent à l'influence du christianisme. Elles nous intéressent puisque ces points deviennent des objets de débat entre théologiens, féministes ou non. Est-ce que le Moyen-Âge a été un temps d'oppression des femmes? C'est facilement l'idée qui a été communiquée, surtout à partir de citations de pères de l'Église, citations horriblement misogynes ou de la fameuse formule de saint Thomas d'Aquin sur la femme comme un mal manqué, mas occasionatus, qui est en fait une théorie aristotélicienne sur la génétique, ce qu'on pouvait en savoir à l'époque. Pourquoi, après fécondation, sort-il une fille ou sort-il un garçon? Ah, bien, l'hypothèse formulée qui était admise, c'est qu'il y a un processus qui ne va pas jusqu'au bout, qui manque sa fin ultime lorsque c'est une fille. C'est dans ce sens que la formule était employée. Mais alors, donc, à partir d'un répertoire de telles citations, Simone de Beauvoir en a fait la liste, mais elle a été contrée par Suzanne Lillard. C'est pour ça que je disais Suzanne. Suzanne Lillard a écrit un livre en réplique au deuxième siècle de Simone de Beauvoir, ce livre s'appliquant le malentendu du deuxième siècle. Donc Suzanne Lillard a réfuté sur cette sélection de formules des pères de l'Église ou de docteurs du Moyen-Âge. D'autres ont répliqué que dans la société médiévale, en fait, les femmes n'étaient pas si mal loties. C'est en particulier été le cas de la médiéviste Régine Pernoud. Je crois que c'est dans son livre Pour en finir avec le Moyen-Âge, citant le cas d'Abbesse, qui était à la tête d'énormes entreprises, avec des hommes sous son autorité, et pas seulement des femmes. Il y a eu bien sûr aussi tout l'épisode de l'amour courtois, et de l'exaltation de la dame. Ce qui a au moins humanisé quelque peu les mœurs. Je crois que Duby a dit que c'était quand même finalement les hommes, le seigneur, qui tiraient les ficelles de tout le système de l'amour courtois. Mais on peut en débattre. Donc, il y a eu diversité selon les époques. Hélène Stonquet plaide que la réforme a été émancipatrice à l'égard des femmes. La réforme, et souligne-t-elle aussi, cette ce prolongement de la réforme qu'a été le puritanisme du XVIIe siècle. Le fait est intéressant à noter parce que nous avons, nous, en français, une image associée au terme puritanisme, qui est, je crois, très fausse. Les puritains, d'abord, il faut bien savoir ce que le terme a pour référence dans le monde anglo-saxon, où il a son usage. Ce sont des calvinistes orientés vers la spiritualité. Ce sont des calvinistes qui mettent l'accent sur la sanctification, sur la dévotion personnelle. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de dérapage, hein, moi je pense que le discours puritain est parfois lourdement grevé de fausses culpabilités et culpabilisations. Donc je ne dis pas que ce soit une forme quasiment parfaite de christianisme que le puritanisme. Mais quand même, foncièrement, je dis que ce sont les deux composantes que je crois aussi devoir mettre ensemble. L'accent sur la souveraineté de Dieu, l'objectivité de l'ordre qu'il a établi, de sa révélation scripturaire, ça c'est le sens calviniste, de la gloire de Dieu, de la souveraineté. Et puis, l'attention alors sur le vécu, l'appropriation subjective, l'expérience faite par le croyant, ce qui a manqué au calvinisme sur le continent. Mais dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, le puritanisme a associé les deux. Les puritains sont ceux qui ont associé les deux. Et socialement ont été progressistes, si on peut employer de telles expressions, d'une manière qui peut surprendre celui qui a des préventions à l'égard du puritanisme. Et Hélène Storké le montre à propos de la promotion de la femme. Mais le mouvement idéologique féministe naît véritablement en Europe occidentale au siècle des Lumières. Et j'ai déjà évoqué les grands thèmes qui correspondent, individualisme, égalitarisme, liberté, égalité. Et une figure peut-être citée qui est emblématique, celle d'Olympe de Gouges, oui, j'ai mis son nom sur le plan, pas la peine d'écrire au tableau, Olympe de Gouges, qui a joué son rôle à la Révolution française. Elle était née en 1746 à Montauban. Elle s'appelait en fait Gouze, mais elle s'est fait appeler Olympe de Gouges. Et qui a rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour répliquer à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a perçu ce qui a souvent été le point de déclenchement des vagues de féminisme, que les révolutionnaires masculins, grands pourfendeurs des privilèges, chevaliers de l'égalité, restaient tout à fait sourds aux revendications des femmes, leurs compagnes. Là, alors, ils ne cherchaient pas l'égalité. Je ne crois pas que ce soit spécialement cette déclaration des droits de la femme qui l'a conduite à la guillotine, mais elle a aussi essayé d'écrire à Robespierre pour tenir la grâce de Louis XVI, et elle a été guillotinée en 1793. Mais une femme remarquable, elle était écrivain, elle s'était fait un nom dans le tout Paris de l'époque, Olympe de Gouges, et elle a été guillotinée, donc première féministe. Oui, alors je pense que Madame Roland a dû jouer un rôle, mais je vous avoue que là, je ne peux pas en dire plus. Peut-être y a-t-il des historiennes ou des historiens qui en savent plus parmi nous. Mais c'est vrai que Madame Roland, on la cite. Hein. Après, donc, cet effort qui n'a pas donné grand-chose, Napoléon a été très traditionnel, romain, dans sa conception du droit et de la place de la femme. Donc après cette première effervescence liée à la Révolution française. Alors c'est dans le monde anglo-saxon que le féminisme se relance, avec une association assez nette au socialisme. C'est déjà dans la première partie du XIXe siècle. en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Avec ce mécanisme que je viens d'évoquer, et je dois de nouveau ce discernement à Hélène Stock, que les femmes participant à un mouvement d'inspiration donc progressiste, de libération, découvrent, après un premier essor de l'affaire, que leur compagnon masculin reste très inégalitaire en ce qui concerne le rapport de l'homme et de la femme, et donc suscite un mouvement féministe distinct. Alors on peut signaler à ce propos que les évangéliques, que des évangéliques au moins, ont pris une part importante à ce mouvement. Comme d'ailleurs aux sources du socialisme. Le travaillisme anglais a été alimenté pour une part par un apport de certains évangéliques au moins, surtout des églises dites libres, des dissidents, et non pas donc de l'église anglicane, mais les méthodistes, par exemple, ont joué un rôle non négligeable. Et Ellen Storkey montre qu'il y a eu déjà de journaux féministes au milieu du XIXe siècle, et d'inspiration évangélique. Des journaux publiés par des femmes, de vraies militances. Et ensuite, des combats qui ont porté sur divers sujets où les femmes étaient particulièrement en cause, entre autres deux grands sujets, mais il ne s'agissait pas de simple moralisation, mais vraiment d'émancipation et de lutte contre des fléaux épouvantables, l'alcoolisme. Les femmes souffraient de la manière la plus lourde, et la prostitution. Et ce mouvement n'a pas considéré les prostituées, comme c'était le cas assez couramment, et du point de vue moralisateur, comme fautives, mais comme victimes. Victimes d'un système où les hommes les transformaient en objets pour leur propre satisfaction. Il y a eu combat avec la grande figure de Joséphine Butler qui a été impliquée dans telle croisade. Donc double aspiration, une aspiration rationaliste, égalitariste, libertarienne d'une part, issue du mouvement des Lumières, et cela aussi dans le socialisme britannique. Et puis une aspiration évangélique, qui se sont au moins côtoyées. Alors un livre important, je pense qu'on peut dire que c'est un premier classique de je cite la bibliographie, qui est, je crois, de 1869. Moi, j'ai une autre édition, hein, qui vient de la bibliothèque de ma grand-mère, d'ailleurs. Je cite dans la bibliographie d'après mon édition, mais en fait, l'ouvrage a été publié avant. John Stuart Mill, qui a été fortement influencé par une femme qu'il a beaucoup aimée, Harriet Taylor. Ça l'a aidé, certainement, à son inspiratrice, à bien des égards. Mais Mill était un grand philosophe, très connu. Et son livre « On the Subjection of Women », sur l'assujettissement, la sujétion imposée aux femmes, a été quand même un grand, grand classique du combat féministe, dans un sens donc, libéral. Mill est le philosophe de l'utilitarisme, comme on l'appelle. Il y a eu, vers la fin du siècle, déjà, mais j'en parlerai donc cet après-midi, une retombée théologique de ce type de féminisme. Ce mouvement a été marqué par la lutte pour l'émancipation. On distingue de façon, je crois, assez suggestive entre un féminisme d'émancipation, luttant contre les inégalités, et puis le féminisme de libération, luttant contre l'oppression, qui est le féminisme actuel, dont je vais dire un mot. Je finirai à midi, mais dans quelques instants. Alors, ce féminisme d'émancipation a lutté pour les droits de la femme dans le domaine juridique, quant aussi aux possibilités d'éducation, et dans le domaine politique, demandant que le droit de vote soit reconnu aux femmes également, et c'est le mouvement dit des suffragettes. On les a appelées les suffragettes, parce qu'elles faisaient des manifs pour obtenir ce droit de vote. Dès 1865, ai-je lu, John Stuart Mill, plaidait pour le suffrage féminin, un suffrage vraiment universel. Et on peut dire que ce mouvement donc, a abouti, en gros, dans les années 20. C'est à ce moment-là que dans le monde anglo-saxon au moins, ce premier féminisme obtient ce qu'il visait. Je lis ce que j'ai noté du livre d'Hélène Stonquet. Dans les deux années 1918 à 1920, l'émancipation des femmes était acquise en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, dans les Pays-Bas, en Pologne, aux États-Unis et en Union soviétique. Avant 1925, des femmes étaient devenues magistrats dans le système donc judiciaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis, avaient pu entrer dans la police, au Parlement britannique et avaient été admises dans la plupart des professions. Alors, en France, il y a eu un temps de retard, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est en 1938 que l'égalité juridique a été entièrement reconnue, mais disons, ce premier grand mouvement, donc visant l'émancipation, la reconnaissance des droits formels, a abouti, en gros, avec des racines, donc dès le milieu du 19e siècle, a abouti dans les années 20 et celles qui ont suivi ensuite. Après cela, une sorte de période de latence. Certes, les guerres ont donné l'occasion aux femmes de remplir des fonctions que remplissent autrement les hommes dans les usines, etc., pour faire marcher la grande machine de guerre. Il a fallu faire appel aux femmes. Mais comme justement Florence Moreno, dans cette interview que j'entendais hier ou avant-hier, je ne sais plus, le soulignait, il y a un tel soulagement une fois la guerre terminée, un tel désir que tout revienne dans la forme de l'avant-guerre, que ce qu'on aurait pu penser avant ce féministe, du fait de l'expérience de la guerre, était pratiquement neutralisé. Et ce n'est que dans les années 60 qu'une nouvelle vague féministe a commencé à gonfler et puis ensuite à déferler. Ce qui correspond aussi à ce que j'ai appelé le virage de la postmodernité. Deux facteurs principalement, la pilule, la contraception, c'est au début des années 60 qu'elle est mise sur le marché aux États-Unis, et qu'elle change le rapport de la femme à son corps, comme on dit, qu'elle change les relations dans le couple de manière prodigieuse. C'est la femme qui décide, alors que jusque-là, elle devait s'en remettre à son compagnon, et c'était un instrument de pouvoir sur elle considérable. Donc, ce changement-là, il date des années 60, est décisif. Et puis alors, le grand changement de la postmodernité, le changement culturel, la vague de néo-marxisme, en fait, qui se dévoilera peut-être par la suite. Très peu marxiste au fond, malgré les apparences. L'esprit de 68, hein, de mai 68, ce climat révolutionnaire. Et alors, pour les femmes qui étaient engagées dans ce combat pour les droits civiques, pour le rejet de toute hiérarchie, de toute oppression, etc., la découverte que les revendications des femmes ne sont pas reçues par les co-belligérants, les compagnons qu'elles ont dans ce mouvement même. D'où, en gros, à la fin des années 60 et au début des années 70, constitution d'un nouveau mouvement féministe, qui est là essentiellement américain. Il faut bien, je crois, reconnaître que c'est d'Amérique que ce nouveau féminisme est venu, avec aussi un foyer français quand même, à cause du livre de Simone de Beauvoir, l'influence, alors là c'est une situation plus culturellement restreinte, un foyer de pensée, mais le livre de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, publié en 49, a aussi joué un rôle important dans ce déclenchement d'un nouveau féminisme. Alors Gisèle Halimi a été une des, je la cite dans la bibliographie, a été une des femmes de ce combat pour la cause des femmes, titre d'un de ses livres que je signale en bibliographie. Mais je pense que c'est quand même du côté américain que les personnalités les plus fortes ont émergé, avec deux noms ou trois noms qu'on peut citer. Betty Friedan, encore dans la ligne libérale. Betty Friedan. Avec son livre qui a un peu anticipé sur le mouvement, parce que son premier grand livre est de 63, sous le titre la mystique féminine, ou le mysticisme féminin, The Feminine Mystique, a revendiqué une nouvelle façon la promotion de la femme, et a attaqué Freud en particulier. Freud pour un machisme, c'est à ce moment-là que les Américaines ont utilisé une formule qui nous paraît très amusante, nous Français, si nous la traduisons littéralement, pour parler des machistes. Quand on dit machiste, donc on parle de l'espagnol macho, le mâle sur de lui, dominateur, etc. Mais ce que disent les Américaines, c'est néo-chauviniste. Et souvent, même maintenant, le mot mère est supprimé. Alors c'est chauviniste, le pauvre soldat chauvin qui est un Français, qui aimait sa patrie de façon un peu trop étroite, qui est devenu un emblème de nationalisme, chauvinisme, voit son nom là, transplanté dans un tout autre contexte, de l'idée du chauvinisme comme d'un nationalisme, un patriotisme trop étroit. Les féministes américaines ont pris l'idée de l'attachement à une sorte de camp que l'on défend avec de mauvais arguments plutôt qu'avec des bons, et l'ont appliqué aux hommes défendant leurs privilèges. Et alors le mot chauviniste est devenu maintenant pratiquement synonyme de machiste, de sexiste. Le mot sexiste aussi a été lancé en circulation à cette époque. Donc mouvement avec quelqu'un comme Betty Friedan, avec Kate Millett, sur la politique du sexe, qui, voyons, est-ce que qui peut affirmer, je pense que c'est d'elle, ou en tout cas c'est la même pensée, que la politique de l'orgasme est aussi importante que la politique du capitalisme, car c'est le mal comme norme dans la société qu'il faut attaquer. Voilà la perspective nouvelle qui sort avec ce nouveau féminisme. Et puis on peut citer encore Germaine Greer. Avec son livre, tous ces titres, vous voyez, sont des titres volontairement provocants, hein, des titres chocs. Son titre « L'eunuque femelle » ou « L'eunuque féminine », où elle affirme que tout l'ordre social châtre la femme, d'où ce titre qu'elle a employé. Et où elle défend la thèse selon laquelle ce qui est radical chez tous les hommes, fondamental, c'est la haine de la femme. Vous avez donc un nouveau mouvement qui ne lutte plus tellement pour une égalité formelle dans le droit, mais contre une oppression concrète. Toute la société est faite d'un point de vue dit androcentrique, andro de ané, andros, le mot grec pour l'homme masculin, une société androcentrique, une société patriarcale, où le pouvoir appartient au père, pater. De là vient tout le mal, la femme est opprimée, radicalement aliénée, et cela dans tous les domaines de la vie, et il faut lutter donc contre l'essence de ce système qui a été fait par les hommes pour les hommes, une façon de parler qui est extrêmement courante. Alors, on peut distinguer, et c'est ce que fait Hélène Storquet, plusieurs branches. Il y a celle comme Betty Friedan qui reste quand même dans le prolongement du mouvement féministe antérieur, encore attaché à l'idéologie des Lumières, et qui, c'est une évolution pour Betty Friedan, mais c'est quand même très intéressant à noter, qui veut sauver la famille. Betty Friedan s'est rendu compte que ce nouveau mouvement féministe risquait de faire plus de mal que de bien aux femmes même, par la destruction de la cellule familiale, donc elle voit le prix. Elle a réagi dans ce sens. Il y a le féminisme marxiste, qui sans doute avait encore plus d'importance en 85, quand Hélène Storquet a écrit son livre, qu'aujourd'hui, étant donné la baisse de crédit du marxisme en général, qui met l'accent sur le système économique, système capitaliste, comme l'infrastructure qui détermine l'exploitation de la femme comme de l'homme. En expliquant qu'il y a une double exploitation de la femme, parce que le système lui assigne la tâche reproductive en plus des tâches productives dans la société. Alors il y a des choses intéressantes dans la critique féministe-marxiste de la société, en particulier, là aussi je tiens ça essentiellement d'Hélène Storquet, la mise en cause de la dualité du privé et du public. L'idéologie du privé comme une sphère complètement coupée. Et avec une idéologisation fantasmatique du foyer, de la maison, home, qui devient une espèce de mythe qui a servi les esprits et qui entraîne des conséquences très pratiques. C'est intéressant, ça mérite, je crois, en effet, une certaine réflexion. Et puis alors, il y a les féminismes dits radicaux. Hélène Storquet dit bien qu'on peut parler de féminisme radical de manière très très diverse. Des gens qui se disent féministes radicaux simplement parce qu'ils sentent la chose très fort, ils veulent être radicaux. Mais on peut être aussi féministe radical parce que c'est toute la vision du monde, toute l'appréhension du réel qui va être faite à partir de la féminitude, comme on dit parfois. Peut-être féministe radical dans le sens d'une volonté d'autonomie qui exclut l'homme au lieu de chercher à l'inclure sur une base égalitaire. Ce sont là des formes diverses de radicalité. Mais elles existent toutes. Alors j'ai déjà parlé de la mise en cause du patriarcat, du pouvoir masculin et paternel. Un courant qui est fort est celui du gynocentrisme face à l'androcentrisme, donc revendiquer le droit qu'a la femme de tout appréhender à partir de son expérience incommunicable de femme, qui ne peut être perçu, vraiment interprété par des hommes. C'est la sororité, la sisterhood, qui permet aux femmes de construire un monde féminin par opposition au monde masculin. Et très souvent, je ne dis pas que ce soit universel, mais très souvent, la conviction qui accompagne, c'est que si le monde va si mal, Si c'est un monde si injuste et sanglant, c'est parce qu'il a été masculin. Que précisément, un monde féminin, un monde gynocentrique, sera le monde de la réconciliation, de la paix, de la sollicitude. Alors, il y a à ce propos une association, mais nous en parlerons un peu cet après-midi, avec l'écologie. Il y a un article que je n'ai pas cité en bibliographie, mais qui que j'ai ici avec moi, dont nous avons fait une traduction et qui va apparaître dans le prochain FAC Réflexion sur cette alliance de l'écologie et du féminisme. Il y a le culte de la déesse, mais de cela aussi nous allons reparler, et les dérives lesbiennes. Cela est de notoriété publique, et un nombre relativement important, n'est pas universel, mais de ces champions ou championnes du féminisme revendiquent en même temps la liberté entière d'une sexualité qui n'a plus besoin de l'autre masculin, pour se déployer et se satisfaire. Donc vous avez là un courant extrêmement fort. Ce qui, bien sûr, pose des problèmes moraux, en particulier aux chrétiens évangéliques, face à ce phénomène. Comme aussi le lien très étroit, alors là, beaucoup plus simple à comprendre, mais qui est fait avec la liberté de l'avortement. Ça, nous savons aussi que c'est un des problèmes éthiques qui surgit. L'émancipation féminine concrète semble requérir de la femme la liberté de ne plus avoir de grossesse quand elle n'en veut pas, et d'y mettre fin s'il y en a une, donc contraception, avortement. C'est un ressort qui joue très souvent. Voilà donc un tableau assez général de la révolution féministe de nos sociétés, et nous essaierons donc cet après-midi de résumer ce qui en est l'accompagnement théologique, de voir comment on peut classer les diverses théologies dites féministes, sans encore prendre foncièrement position. Enfin, nous essaierons de nous acheminer vers la fin de notre travail ensemble, vers une prise de position, mais pas prématurément.